Israël, c'est toujours, malheureusement, ou heureusement, c'est comme on veut, les négociations sur la libération des otages qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive aussi. On va en parler, Lise, ce matin avec votre invité.
Oui, je suis ravie d'être en ligne ce matin avec Ori Sahar, ancien de l'unité 8200 et spécialiste de l'Iran. Bonjour Or.
Bonjour Lise, bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors, Or, la réponse du Hamas est tombée et il réclame toujours la même chose, c'est-à-dire, entre autres conditions, un arrêt total des combats et le retrait de Tsahal de la bande de Gaza. En fait, malgré les allégations optimistes du Qatar et des États-Unis, on en est exactement au même point qu'avant les négociations de Paris.
Moi, et je suggère aussi pourquoi se satisfaire de ces conditions-là. On peut commencer tous les matins au Knesset en agitant le drapeau du Hamas et en chantant leur hymne. On peut même établir une unité de vacances, un hôtel boutique sur le mont du Temple et pour conserver le régime du Hamas en ouvrant le bureau de l'expression noire là-bas. On peut penser de tout genre de demandes, des exigences, mais au sérieux, je pense que, écoutez, le fait même que Hamas est en train de négocier nous démontre peut-être qu'il toujours arrive aux négociations d'une position de force. Même si à la bande de Gaza, on voit que le Tsahal fait un travail absolument impressionnant, même si il y a des vastes parties de la bande de Gaza qui sont sous le contrôle de Tsahal, et même s'il y a plus d'un million de Palestiniens qui se sont déménagés, qui ont été déménagés de chez eux, je pense que le régime de Hamas voit qu'il a toujours la possibilité d'arriver à des négociations et non pas présenter une capitulation totale. Et c'est ça l'erreur. Et je pense que le moment où le Hamas va présenter la capitulation totale, c'est là où on va voir les otages libérés, c'est là où on va voir le vrai tournant à la bande de Gaza, et à partir de ce moment-là, on pourra parler de la reconstruction de Gaza. Mais jusqu'à ce moment-là, je doute que ce soit suffisant pour Hamas. Quoi qu'il en soit, le maximum qu'Israël sera prêt à donner ne va pas arriver à être proche au minimum que Hamas va exiger, et on ne peut pas continuer avec ce genre de négociations sans ça.
Alors justement, Or, vous qui êtes spécialiste de l'Iran, hier, le porte-parole de Tsahal a montré, même si ce n'est pas du tout une surprise évidemment, mais là on en a les preuves, des versements entre 2014 et 2020 pour 154 millions de dollars de la part de l'Iran au Hamas. Alors, j'ai envie de vous demander, Or, pourquoi est-ce que les négociateurs, et notamment les États-Unis, ne se tournent pas vers une pression sur l'Iran au lieu de tenter de faire pression sur le Hamas, qui n'est finalement qu'un proxy, qu'un intermédiaire de l'Iran?
100%, je pense que vous avez absolument raison. Et je dis depuis, ça fait 4 mois que je dis que la pression doit se faire sur l'Iran, sur le Qatar aussi, mais sur l'Iran notamment, et non pas sur le Hamas. Parce que moi, 154 millions de dollars, ça a l'air un peu pour moi en fait, parce que selon ce que je sais, l'Iran a versé au Hamas au moins 360 millions de dollars par an. C'est leur propre porte-parole qui l'ont dit. Donc, c'est ce genre de... J'ai le sentiment que les États-Unis ne veulent pas confronter avec l'Iran. C'est toujours la même conception qui leur a guidé lors des négociations sur la résolution de l'accord nucléaire. Je pense qu'à la fin du compte, on devra confronté avec le serpent lui-même qui s'appelle l'Iran. C'est ça le ventriloque qui est derrière Hamas et non pas avec l'organisation qui est financée, équipée et formée par l'Iran. C'est-à-dire, on peut négocier sans fin avec le Hamas. Ils sont une organisation, mais une organisation qui fait partie d'un vaste réseau d'organisations qui sont tous opérées par l'Iran. Et ce sera une grave erreur de ne pas inclure l'Iran dans le cadre des négociations, dans le cadre de la pression internationale.
Comment expliquer, Henri Sahar, que alors que les États-Unis et le Qatar avaient annoncé des réponses optimistes, on se retrouve finalement avec quelque chose d'encore plus dur comme proposition, puisqu'il y a comme d'habitude un arrêt total des combats et le retrait de Tsahal de la bande de Gaza, mais il y a aussi la reconstruction de Gaza, la fin du blocus et la libération de prisonniers, y compris de prisonniers condamnés à perpétuité et de terroristes du 7 octobre. Donc on a l'impression que non seulement la négociation n'a servi à rien, mais en plus le Hamas a rajouté des conditions encore plus inacceptables pour Israël.
Bon, c'est exactement le résultat. Quand on agit, on ne fait rien par crainte de confronter avec l'Iran. Encore une fois, le Hamas peut demander ou exiger l'arrêt total de combat, la libération de tous les prisonniers palestiniens, y compris les prisonniers qui sont là pour avoir tué de nombreux Israéliens. On peut vraiment En fait, on peut comprendre le côté de Hamas, parce que pourquoi pas, ils peuvent poser n'importe quelle demande. Et Israël, alors qu'on respecte la valeur de la vie, on voudra naturellement voir nos otages chez eux, nos otages rentrer. Mais il y a des lignes rouges pour un État. On ne peut pas se permettre d'arrêter les combats, parce que sinon ce serait en contravention avec les objectifs de la guerre. On verra le 7 octobre encore une fois si on fait ça, si on permet au Hamas de se réarmer, de se réorganiser comme un régime à la bande de Gaza. Et en fait, on va revenir au début. Et c'est là, et c'est exactement ce que ça ne peut pas se permettre à faire.
Alors, comment expliquer justement ? Or, vous avez l'impression que les États-Unis ont peur de l'Iran aujourd'hui, d'une confrontation directe avec l'Iran ?
Oui. Je pense que oui. Je pense qu'il est évident que les États-Unis, avec toute la force, et c'est ça la dissonance, parce qu'on sait que les États-Unis est le leader de monde libre. On sait que voilà, l'Iran, avec ce qu'on appelle le pauvre iranien qui est en train de prendre ou essayer de prendre contrôle sur le Moyen-Orient avec Hezbollah, le Hamas, etc. Et ne pose pas une vraie menace sur les États-Unis. Mais voilà, c'est exactement la différence entre avoir le pouvoir et la volonté d'utiliser le pouvoir. C'est ça que le monde occidental a du mal à faire. Et c'est exactement pour la raison pour laquelle l'Union européenne est fondée sur pouvoir la force douce, on peut dire, et soft power, non pas sur la force dure. Et je pense que c'est exactement la notion, le concept guidant du monde occidental d'aujourd'hui, d'éviter la confrontation. C'est exactement la raison pour laquelle le président Obama a fait l'accord nucléaire avec l'Iran, parce qu'il n'a pas voulu, il a dit lui-même, il n'a pas voulu s'entrer pleinement dans une confrontation ouverte avec l'Iran. Et pour moi, d'après moi, je pense que Israël vaut mieux de ne pas aller à la face à face contre l'Iran, s'attaquer à l'Iran, au problème iranien tout seul. Non seulement, non pas parce qu'Israël n'a pas la capacité, mais plutôt parce que je crois qu'il vaut mieux le faire dans le cadre d'une coalition plus grande qui sera menée par les États-Unis avec la participation des États européens et une coalition où Israël et les pays arabes pragmatiques feront partie. Et c'est comme ça qu'on pourra confronter avec l'Iran et s'attaquer à ce problème-là, parce que là, le monde comprend qu'il faut s'attaquer au problème de Houthi qui menace sur la libération de navigation à Bab el-Mandeb, à la mer Rouge, etc. Mais qui sont les Houthis? Les Houthis sont une affiliation de l'Iran. Alors, c'est pratiquement, il s'agit d'une coalition contre l'Iran. On l'a aujourd'hui, déjà. Alors, si c'est le cas, je pense qu'il faut mieux, il vaut mieux élaborer cette coalition pour y comprendre plus d'États de la région pour s'attaquer directement aux problèmes iraniens. C'est ça la tête du pieuvre, comme on dit. Et c'est là où les États-Unis, évidemment et manifestement, ne veulent pas aller. Mais on n'aura pas de choix. Si on continue d'éviter les problèmes vont nous chasser. C'est exactement le scénario qu'on veut éviter.
Merci beaucoup, Henri Sarrar, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes membre des Bitronis Team, les sécuritaires, anciens de l'unité 8200 et spécialistes de l'Iran. Bonne journée à vous et à bientôt.